On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Alors, Mathieu, c'était le congrès du PQ. Et là, on parle d'un référendum avant la fin de la décennie. Et on dit que c'est le référendum de la dernière chance. Qu'est-ce que tu en penses?
Tout cela me semble simple bon sens. Franchement, ça faisait longtemps que j'attendais un discours qui ressemble à ça dans le mouvement national au Parti québécois. Et je m'explique. Parler de souveraineté toujours dans le vide de manière lointaine, tu sais, l'indépendance serait bien, oui, un jour, tout ça, mais sans l'associer à un projet politique ferme, un projet politique, on dit, voilà, là, c'est concret, c'est bientôt, préparez-vous. Eh bien, si tu en parles de manière éthérée, c'est difficile à concrétiser. Si tu donnes un agenda, ben là, les gens se disent, OK, ben, on va se mobiliser pour ça. C'est plus sérieux. Les gens qui vont s'engager en politique vont être obligés de se prononcer sur cette question qui a été laissée de côté pendant trop longtemps. Parce que c'est le premier élément. Ça concrétise la chose. Le référendum, c'est plus seulement celui qu'on a perdu il y a presque 30 ans. C'est celui qu'on peut gagner dans 4-5 ans. Premier élément. Je précise pour la chose, pour rendre justice à quelqu'un, d'ailleurs c'est un collaborateur de temps en temps sur la chaîne, c'est Nick Payne. Pendant des années, il reprochait aux souverainistes de toujours se dissocier de l'agenda référendaire, de l'horizon référendaire en disant, vous parlez de l'idéal sans parler de sa concrétisation, vous faites en sorte que ça devient insaisissable, ça devient presque un objet, tu sais, on flatte un fantasme. Là, non, c'est concret. Premier élément. Donc, ce que ça veut dire, puisque c'est la question de la conversation publique, parler de politique au Québec de 60 à 2000 environ, c'était de parler de la question nationale. Après ça, c'était parler des lucides. Après ça, c'était parler d'accommodement raisonnable. Après ça, c'était parler d'écologie. Très bien, là. Mais là, ça redevient, parler de politique va redevenir parler de souveraineté puis de la place du Québec dans le Canada. Premier élément. Deuxième élément, puis ça, je pense que c'est la chose importante, PSPP nous dit... Ne pas tenir, il dit pas comme ça, là, ce sont mes mots, mais c'est le référendum de la dernière chance. C'est-à-dire, ne pas le tenir, ça veut dire, c'est l'équivalent de le perdre. Parce qu'on est, puis c'est ce que disait Facal aussi très récemment dans une excellente chronique, on est dans un moment de notre histoire où si on refuse de le tenir, ben si on se dit, ouais, parce que dans 20 ans, 25 ans, on va pouvoir, non. Le changement démographique entraîné par la submersion migratoire, la submersion démographique qui est au cœur de l'État canadien, puis dont le Québec fait les frais, entraîne objectivement l'effacement du peuple québécois puis l'effacement identitaire du peuple québécois. Donc, soit on le fait maintenant, soit on le fait jamais. Et moi, tu m'as souvent entendu dire ça, je suis de ceux qui pensent que les Québécois sont plus ou moins doués pour la liberté ou pour la République ou tous ces concepts qui ailleurs peuvent enflammer les peuples, mais on est doués pour la survivance. Ce qu'on a su faire depuis la conquête, c'est survivre, c'est tenir, c'est toffer. Bon. Eh bien, objectivement, si l'indépendance devient la condition de la survivance, il y a comme une connexion des affects fondamentaux qui va s'opérer dans le discours public et qui va rejoindre beaucoup de Québécois. Je pense que c'est la condition pour que l'appui à la souveraineté commence à monter, puis ensuite qu'on bascule dans une autre dynamique, c'est justement de rendre ça très concret. Donc franchement, je regarde ça, Dieu sait que j'ai été critique du Parti québécois dans ma vie, je suis souvent critique encore de plusieurs de ses orientations, mais sur la question fondamentale, je pense qu'il est bien aligné aujourd'hui.
Il y a des gens qui disent que la fenêtre d'opportunité, ben il faut en profiter tout de suite parce qu'elle va se refermer dans pas grand temps à cause des changements démographiques. Il y a des gens qui disent, et j'ai tendance à le croire, moi, qu'elle est déjà fermée, la fenêtre d'opportunité. Là. T'en penses quoi?
Alors, si c'est ce qu'on pense, alors si c'est ce qu'on fait, on s'achète une pelle, puis on creuse sa tombe, puis on se couche dedans. Si c'est déjà terminé, on arrête. T'sais, on devient des jouisseurs boomers, on devient des personnages du déclin de l'Empire américain, on se dit tout est foutu, mais au moins, on va manger des bons pâtés. Bon, on peut se dire ça, mais on peut se dire aussi, on est encore là, on est vivant, t'es vivant, je suis vivant. Les francophones, la majorité historique francophone fait encore quelque chose comme 78% de la population au Québec. OK, il faut être plus nombreux à voter pour qu'autrefois. Donc, il faut un appui à la hauteur de 65, 66, 67% chez les francophones. Je suis de ceux qui pensent que c'est jouable depuis longtemps. J'ai toujours pensé que l'appui potentiel à la souveraineté, c'est l'appui au non à Charlottetown en 92. Donc, en gros, 56, c'est jouable. Mais si on pense que tout est foutu, on change complètement de discours politique, puis là, on devient des nationalistes autonomistes acadiens. On devient des défenseurs de nos traditions coutumières auxquelles on est si attachés. Mais si on pense qu'il y a encore une chance sur 100 Puis moi, j'ajoute une chose. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, elle est quasi philosophique. C'est-à-dire, le simple fait de se mettre en mouvement créer des possibilités qu'il n'y avait pas quand on était immobile. C'est-à-dire, le simple fait de bouger change la perspective. Le simple fait de bouger ouvre des possibles qui autrement étaient refermés. Bon, ben, à partir du moment où les indépendantistes disent c'est pour, on prend le pouvoir, puis dans l'année qui suit, on fait un référendum. Bon, ben là, les gens qui vont se joindre au Parti québécois, parce que par ailleurs, il y a de bonnes chances de prendre le pouvoir aux prochaines élections, ben là, donc, la nouvelle élite qui va plus, les quadragénaires qui sont à la veille de se lancer en politique, les quinquas, tout ça, ils se lancent sur cette question-là. Ça redevient objet de conversation. Puis comme je dis, il y a un côté dernière chance. Mais je pense aussi que c'est la dernière chance du peuple québécois. Dire parce qu'il est possible aussi que tout soit foutu. Mais si on ne s'y résout pas, eh ben là, on se dit, on agit, puis on se lance, puis on essaie de faire quelque chose. Et il arrive de temps en temps que la dernière offensive soit la bonne. Et je dis pas ça comme un désespéré. Moi, je pense que c'est possible vraiment de gagner dans les circonstances. Ça va exiger plusieurs choses. Il va falloir trouver le moyen de parler à une partie de la droite de Québec. 4, 5, 6 % de l'électorat, peut-être un peu plus, qui s'obstinent. C'est assez fascinant, en fait. Leur argument, c'est on est colonisé, donc on n'est pas capable de faire l'indépendance. Je suis d'accord, mais si on est colonisé, on va se décoloniser. La bonne manière, l'indépendance nous permet de sortir des atavismes hérités de l'histoire de la conquête. Non, on n'est pas capable. Puis là, ils nous disent, oui, mais on veut la souveraineté seulement si ça donne un Québec de droite. J'ai un instant à me reprocher aux gens de QS de vouloir la souveraineté seulement si vous voulez un Québec de gauche. Donc, il va falloir gagner cette partie de l'électorat, falloir remobiliser les gens, mais je pense que c'est politiquement jouable quand on regarde les calculs en ce moment. Mais ça ne sera plus dans 20 ans.
Regarde, tu parlais de la région de Québec. Ce qui se passe ces temps-ci, c'est très intéressant avec le PQ qui disait non, 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 on veut rien savoir du troisième lien, non, non, non. Et là, soudainement, oh, on est prêt à changer notre point de vue, puis oui, peut-être le troisième lien, bon... Quand tu es loin du pouvoir, quand le pouvoir est un mirage, OK, tu peux te permettre d'avoir des principes. Mais plus tu t'approches d'une possible élection, plus tu t'approches du pouvoir, comme c'est le cas avec le PQ, parce qu'on le voit avec les sondages, là, plus peut-être tu dis, eh ben là, c'est possible, et plus tu mets de l'eau dans ton vin. Hein, c'est, on va pas se le cacher, là. Pourquoi ils ont changé leur point de vue sur le troisième lien? C'est parce qu'ils veulent aller chercher des votes dans la région de Québec. Alors, est-ce que la victoire s'approchant, ils vont repousser le référendum à un deuxième mandat, quoi? Est-ce qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin souverainiste?
Ben, moi, premièrement, je distinguerais en mettre de l'eau dans son vin des travaux de voirie puis des transports publics, puis de mettre de l'eau dans son vin sur la question de l'indépendance. Par ailleurs, je me trompe peut-être, mais parce que je trouve qu'il y a un récit médiatique un peu bizarre sur la question du troisième lien puis le PQ. C'est-à-dire, globalement, le PQ a pas tant changé de position que ça. Il a dit, le troisième lien version bitube, là, le bitube, c'était ça. Le troisième lien, c'était pas un troisième lien, genre, c'était pas un téléphérique, là. C'était le troisième lien, on est contre ça. Ensuite, ils disent, là, il y a un nouveau projet qui va être élaboré par la Caisse de dépôt, puis on va se prononcer sur le projet quand il nous sera présenté. Rappelle-toi quand François Legault dit, on s'est fondé sur des études, mais c'est quoi les études? Puis on finit par pas les trouver. Donc là, à un moment donné, si la Caisse de dépôt fait un travail sérieux, puis dit, on va présenter un projet qui a de l'allure, et puis que ça correspond aux besoins en infrastructure de Québec, moi, je vois pas un changement de cap là-dedans. C'est-à-dire, si le PQ disait soudainement, en fait, le bitube, on est pour. Là, je dirais, mais bande de zigotos, bande de zouaves. Mais pour l'instant, c'est, j'entends pas un changement de programme. Juste simplement, on nous dit, on va faire quelque chose de tout autre. Ça serait un peu borné de dire, on est contre avant même de le lire. Premier élément. Pour le reste, pour le référendum, j'ai eu cette conversation-là avec des amis indépendantistes depuis quelques jours. Là, j'en ai des péquistes historiques. Je pense à une en particulier qui me dit « Ah non, faut pas promettre de référendum, ça va nous empêcher de prendre le pouvoir. Puis prendre le pouvoir, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours mieux que les libéraux, c'est toujours mieux que la CAQ. » Un instant, là. Là, si on est dans cette logique-là, on a perdu d'avance. Si les indépendantistes sont pas capables de dire que c'est une échéance historique, existentielle, plus importante que les autres, c'est une élection d'une autre nature, ben on reproduit les travers du péquisme classique qui est la meilleure manière d'échouer. Et donc ça, je pense que vu le contexte historique qui se dessine devant nous, c'est je ne pense pas, je me trompe peut-être. Je dis pas qu'il y en a pas qui vont pas le suggérer, mais je pense que le PQ, son élection, si vous l'avoir, dépend de son sérieux sur sa raison fondamentale. Puis si les gens votent pour lui quand même, c'est pas certain, hein, franchement, en politique, ça varie les sondages, mais si les gens votent pour lui quand même, ils savent à quoi s'attendre. Et s'ils savent à quoi s'attendre, c'est qu'ils sont prêts à se faire poser la question une nouvelle fois. Ça plaira pas à tout le monde. J'entends Éric Duhaime avec son argument tout à fait original qui dit « je vais voter non ». Oui, le non va faire du mal au Québec, mais je vais voter non pour envoyer le signal qu'on veut vraiment plus de référendum. OK, mais tu dis que ça va faire du mal au Québec, donc tu vas y faire encore plus de mal en votant non. Puis ça fait deux fois que je reçois du M à mon émission, je comprends toujours pas sa position là-dessus. Sinon, qui dit, je vais me couper, on va te couper un demi-bras. Ah non, coupe-le au complet, comme ça, j'aurais pas le souvenir que j'avais déjà eu un bras. Il y a quelque chose là-dedans qui tient pas à la route, selon moi.
Bon, on se souvient tous du discours là, de 1995 de Jacques Parizeau qui disait, bon, je résume là, mais qui disait, ça vaut pas la peine d'essayer de convaincre les gens qui viennent d'arriver au Québec, les gens qui font partie de communautés culturelles et tout ça, de l'importance de la souveraineté. On va régler ça la prochaine fois entre nous, c'est-à-dire entre Québécois de souche, parce qu'on perd notre temps à essayer de convaincre ces gens-là. Si y a un référendum demain, un troisième référendum, tu es président des forces du oui, est-ce que tu vas adopter cette stratégie-là, Mathieu, en disant, moi, je vais d'abord et avant tout parler aux francophones de souche du Québec. S'il y en a d'autres qui embarquent dans notre projet, tant mieux, mais je ne perdrai pas mon temps à essayer de les convaincre. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, moi, je poserais la chose autrement. Je dirais aux francophones de souche, ça devient compliqué. Je dirais, Normand Brathwaite n'est pas un francophone de souche, mais c'est un Québécois comme toi pis moi. Je me permettrais de mentionner, je connais quelqu'un qui est, par son père, elle était kabyle, et par sa mère, elle est québécoise de souche. Je sais pas dans quelle catégorie il faut la ranger, mais je sais qu'elle vote oui. Bon, donc, est-ce qu'elle fait partie du monde qu'il faut rejoindre? Donc, moi, cela dit, moi, je crois... moi, j'aime pas les discours vertueux en disant « on va parler à tout le monde ». Oui, oui, il faut parler à tout le monde, évidemment. Évidemment qu'il faut le faire. Mais il faut avoir une conscience que c'est d'abord la majorité historique francophone et ceux qui s'y sont intégrés, qui sont interpellés par la question nationale. Et que l'effort qu'on peut mettre, les ressources investies pour convaincre un anglophone historique de Westmount de voter oui... C'est démesuré par les ressources à investir pour convaincre un entrepreneur de la Beauce de voter oui. Puis je comprends, moi en plus je suis pas fou là, je comprends les anglophones historiques de pas vouloir l'indépendance du Québec. C'est-à-dire, objectivement, ils veulent pas être mis en minorité dans un nouvel État indépendant où il y aurait une majorité française. Never under French rule, comme on disait autrefois. Ensuite, les souverainistes sont pas des irresponsables. Ils garantissent les droits de la minorité anglaise. Ils garantissent le droit à ces institutions. Ils n'ont pas l'intention d'avoir une politique vengeresse à leur endroit. Ça va de soi. Mais, donc, il faut assurer les droits de la minorité historique anglaise. Je suis convaincu de ça. Mais il y a aucune illusion. C'est-à-dire, on ne gagnera pas l'appui et pour les communautés anglicisées, la possibilité de les rejoindre est assez limitée. Il faut faire des efforts pour ça, mais il faut savoir quel est l'électorat cible. Et moi, je pense qu'on peut avoir 65, 66, 67% chez les francophones. Ça, c'est jouable. Mais les francophones, comme je dis, Jocelyn Tremblay d'Alma jusqu'à Normand Brathwaite, puis qu'est-ce que tu as Normand? Trouve-en d'autres, trouve des noms qui sont des gens qui sont plus récemment arrivés, mais qui sont francophones. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison, mais cela dit, il faut savoir qui on vise.
OK, Mathieu, question personnelle. Tu es toujours en réserve de la République et tu as tout le temps dit moi, je me lance pas dans l'arène politique là, tant que c'est pas la vraie joute. Mettons, bon, on commence. Une période référendaire, mettons. Le PQ a gagné ses élections et annonce un référendum bientôt. Bien sûr que tu vas appuyer la cause en étant chroniqueur, en étant animateur, en étant bon, c'est certain. Est-ce que tu seras tenté par un rôle plus actif en disant, là, c'est là que ça se passe, là. C'est là, là.
J'ai toujours... La première chose, là, ça, je le dis, si jamais il y a un référendum au Québec, imaginons que toutes les compagnies aériennes du monde fassent faillite, mais je traverse l'Atlantique en pédalo pour rejoindre le Québec et ne pas manquer ce moment que j'attends de tout mon corps et de tout mon être depuis toujours. Premier élément. Ensuite, il y a plusieurs manières d'intervenir dans la vie publique. J'ai toujours pensé, je me trompe peut-être, mais je pense pas me tromper, je suis meilleur intellectuel que politique. Donc, ma manière de contribuer à ça, c'est de... Ensuite, je contrerai pas l'histoire. Tout le monde se pose la question un jour, est-ce que je devrais servir un moment ou de l'autre? Mais ce que je pense sincèrement, c'est que ma manière de servir, c'est dans l'espace public, écrire des livres, chroniquer, multiplier les interventions. Puis ça, c'est une manière de mener campagne sans pour autant confondre les rôles. Mais, comme je dis toujours, si par je ne sais quel moment de folie, c'est un peu à la manière de Jeanne d'Arc, mais j'entends une voix qui me dit « Mathieu, si tu ne te lances pas, le camp du oui perd. » mais si tu te lances, vous avez peut-être une chance de gagner. Bon, ben là, je devine que je saurais comment répondre. Mais j'ai pas l'habitude d'entendre des voix, cela dit. Mais je pense que chacun, à ce moment-là, il va avoir des intellectuels, il va avoir des hommes d'affaires, il va avoir des acteurs, il va avoir des gens dans tous les domaines de la société. Il va avoir des Québécois en France qui vont s'activer pour ramener les appuis français au camp national. C'est important, ça, faut pas l'oublier, hein. Eh ben, tout ça, donc chacun va jouer son rôle. Mais comme dirait un politicien, en temps et lieu, je répondrai. Mais pour l'instant, je ne me projette pas dans ce rôle.
Hâte de te voir en pédalo traversant l'Atlantique. Alors, il y a des gens qui disent un troisième référendum, si on le perd, ça va être épouvantable. Mais si on le tient pas, de toute façon, on peut pas descendre plus bas. C'est un peu la logique derrière ça. Le PQ dit, ça peut pas être pire que c'est présentement. Donc, si à la limite, on le perd, bon, on le perdra et c'est tout. Et puis, si on le gagne, ben tant mieux. On verra, mais ça risque d'être très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Et puis, commence à louer ton pédalo parce qu'il va en avoir un peut-être bientôt. Salut, bye.